Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope. Calibre, une antenne libre pour poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est Calibre sur Radio Kaléidoscope
97 FM à Grenoble et partout ailleurs sur Internet.
Alors, Calibre, c'est quoi? C'est une libre antenne?
Oui. Vous écoutez Calibre en direct parce que, voilà, on avait envie de faire cette émission libre antenne pour vous laisser la place de nous appeler pour poser des questions, passer des coups de gueule, nous faire partager vos expériences, analyses, etc. sur des thèmes bien précis quand même.
Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est sur l'amour, comme le A de Calibre, on sait pas.
Voilà, sur les corps, comme le C de Calibre.
Et aussi sur la sexualité, les sexualités, le S de Calibre.
Voilà, alors, on a dit ça un peu comme ça, C, A, S, corps, amour, sexualité, mais c'est pas forcément que ça. C'est aussi parler des relations affectives, qui sont pas forcément toujours des relations amoureuses, parler des sexualités en général ou de l'absence de sexualité, enfin, voilà, c'est, en tout cas, tous les sujets qui tournent autour de ça. Et voilà, au départ, cette émission, on a voulu la faire aussi parce qu'on trouvait que ce qui existait actuellement sur ces thématiques-là, en termes de libre antenne, nous plaisait pas forcément.
Que c'était souvent l'occasion plutôt de juger les gens, même quand elles se présentaient comme étant sans tabou et tout ça. En fait, c'est souvent l'occasion d'humilier les gens sur leurs pratiques, sur leurs expériences.
Oui, de bien se prendre la poire, mais plutôt en se moquant des gens plutôt que de rire avec eux et elles sur des sujets qui, ma foi, oui, qui peuvent être légers et sympas, mais qui peuvent être aussi sérieux quand même. Et nous, on a pensé qu'on pouvait faire une émission sérieuse et rigolote et sympa. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc voilà.
Alors on est une petite dizaine de personnes, mais ce soir pour cette émission, on est quatre. Et à la technique, il y a Émilie et Laura. Et au micro, il y a Emma et Mélanie.
Voilà. Donc avec vous ce soir jusqu'à 21h. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant, 04 76 09 09 09. Vous allez voir, on a prévu de parler de pas mal de choses ce soir. Et puis, vous pouvez nous appeler à tout moment, même si on est en train de blablater. N'attendez pas forcément les musiques pour nous appeler. Si ça ne sonne occupé, c'est qu'on est déjà avec quelqu'un au téléphone. Donc, n'hésitez pas à essayer après. Et voilà. un petit quiz
ouais un petit quiz avant de s'écouter une petite musique. Donc
c'est une tradition maintenant,
c'est un peu une tradition maintenant et effectivement. Alors la question quiz du jour est: qu'est-ce que la capote Viagra?
Voilà.
Alors
donc il n'y a rien à gagner, mais mais vous pouvez quand même nous appeler pour répondre au quiz Calibre. Et bon, quand même, voilà, ce que vous gagnerez, c'est quand même une petite discussion rigolote.
Voilà,
avec nous,
le plaisir de discuter avec nous.
Donc, qu'est-ce que la capote Viagra? Et on vous laisse avec ça, avec une chanson d'Amy Winehouse. Hein? Oui, c'est ça.
Amy Winehouse House. Back to the Black.
Same old, same bed.
remplacé ma pilule par un DIU, dispositif intra-utérin. D'une part, car ça me saoulait de prendre la pilule tous les jours depuis 7 ans. Et d'autre part, car je me demandais si elle ne perturbait pas ma libido. Donc, effectivement, l'envie sexuelle est revenue, et puis j'ai l'impression maintenant de sécréter plus de cyprine, ce qui contribue à mon excitation. Ce qui contribue à une augmentation de sécrétion. Enfin, le cercle vertueux, quoi. Cependant, je tenais à souligner que ce DIU pose parfois souci, et je voulais savoir si d'autres filles avaient le problème. Quand je suis au-dessus de mon partenaire, en Amazone, son sexe dans le mien, et que lui est allongé sur le dos, je sens mon DIU, et ça me fait mal. Je me demande pourquoi, et si c'est normal. C'est bien dommage, car c'était une position assez efficace pour des orgasmes rapides, et j'ai dû l'abandonner. Le côté positif, c'est que mon partenaire et moi-même avons été encouragés à trouver d'autres moyens d'arriver à mon plaisir. Et c'est fou comme les orgasmes peuvent être si différents les uns des autres.
Alors ça, c'est l'extrait, c'est un extrait d'un mail en fait qu'on a reçu d'une personne qui se nomme Roxane. Alors pendant cette émission ce soir, on va lire en gros deux extraits en fait de ce long mail qu'on a reçu. Alors encore une fois, merci pour vos mails, c'est super que vous nous écriviez comme ça, on reçoit beaucoup de témoignages et nous ça apporte beaucoup de matière en fait aux émissions, donc c'est vraiment précieux. Encore une fois, ça aurait été plus simple pour nous peut-être, ou en tout cas ça aurait été chouette pour nous de discuter en fait avec toi Roxane, donc si tu nous écoutes appelle-nous, comme ça on peut, c'est plus facile et plus interactif quand même de discuter, puis ça permet aussi que nous on n'interprète pas des fois peut-être et qu'on soit pas à côté de la plaque, mais en tout cas on avait quand même envie de donner des échos en fait à certaines des choses que tu nous partages en fait dans ce mail, et en l'occurrence là on a lu cet extrait parce que ça nous semblait important de du coup faire un petit point sur cette histoire de DIU.
Le DIU, alors le dispositif intra-utérin, pour les personnes qui connaissent pas, c'est, on l'appelle aussi le plus couramment en fait stérilé, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent l'appeler dispositif intra-utérin ou DU parce que c'est moins connoté. Le stérilé, c'est un nom quand même qui se rapproche de stérile et tout ça. Donc voilà, maintenant on a plus l'habitude de l'appeler DU, et c'est un moyen de contraception, c'est un petit objet de quelques centimètres. Il y en a différents types qu'on installe à l'intérieur de l'utérus et qui permet une contraception de tous les jours, quoi. Et ça se change tous les 3 à 5 ans, ça dépend un peu des types. Et la pose peut être un petit peu douloureuse, le retrait ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
C'est une contraception sans hormones. Alors, il y a deux types de DU. Il y a les DU sans hormones, donc en cuivre, avec donc le petit objet en forme de T et en cuivre, et il y a des fils comme ça, qui ça fait comme une petite queue en fait au petit T. Et donc ça, c'est il y a la version sans hormones et il y a aussi la version avec hormones, donc qui diffuse des hormones en plus
de la progestérone en l'occurrence.
Voilà. Et donc la principale utilité du DIU, enfin en tout cas sa principale fonction, c'est d'empêcher la nidification pour celui qui est sans hormones. Peut-être on va pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà parlé beaucoup du stérilet, enfin du DIU, mais en tout cas voilà, c'est un moyen de contraception parmi ceux qui existent.
Et là Roxane nous raconte que elle a changé de contraception parce qu'elle avait l'impression que la pilule ça la gonflait, quoi, et pour plusieurs raisons, et qu'elle a l'air plus satisfaite en tout cas de ce moyen de contraception. Et là on avait un peu envie de dire oui, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne contraception, la meilleure contraception qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on choisit et celle qui nous va bien, quoi.
Voilà,
du coup ça dépend de nos pratiques, ça dépend de nos pratiques sexuelles, ça dépend de ce qu'on a envie dans la vie et de plein de choses, quoi.
Oui, et puis d'où l'importance du coup de connaître en fait quels sont les moyens de contraception qui existent actuellement. C'est bien du coup d'avoir vraiment le choix, parce que souvent effectivement on a plutôt en tête peut-être 2-3 moyens comme ça. Enfin, j'imagine que les plus connus c'est la pilule, la capote et le stérilet, mais il y en a encore d'autres et c'est chouette d'aller se renseigner pour voir ce qui nous convient le mieux.
Et moi je rajouterais quand même que souvent le stérilet on l'associe pour des femmes qui ont déjà eu des enfants, alors que en réalité on peut très bien le poser pour des femmes qui n'ont pas eu d'enfants encore. Donc ça aussi c'est pas juste savoir que tous ces moyens de contraception existent, c'est quoi leurs caractéristiques, etc. Enfin, il y a du coup si vous êtes insatisfaite de votre moyen de contraception, n'hésitez pas à appeler
voilà
pour en discuter avec nous. Et en tout cas c'est chouette Roxane que apparemment ce moyen de contraception te va mieux même si là apparemment il semble te poser un petit problème lors des rapports sexuels.
Alors donc nous on voulait revenir sur ce problème lié aux douleurs que tu ressens pendant les rapports sexuels. Alors là c'est en particulier des rapports de pénétration. Donc pénis dans vagin dans une certaine position apparemment quand tu es assise sur lui. Et donc alors nous on va pas apporter là une explication sur pourquoi ça te fait mal à cet endroit là enfin d'ailleurs l'endroit on sait pas vraiment où ça te fait mal, mais on a extrapolé, on s'est dit ça doit être dans le bas-ventre au niveau de l'utérus, mais on sait pas vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que comme là on n'en discute pas ensemble, on voudrait pas faire des interprétations fausses. Du coup, nous juste ce qu'on avait envie de dire là, c'est que c'est pas une fatalité d'avoir mal, c'est pas normal non plus entre guillemets, comme moi j'ai pu lire sur certains forums. Ça revient beaucoup ces histoires de douleurs lors des pénétrations vaginales avec stérilet. Et pas mal de femmes disent et se conseillent un peu entre elles comme ça, mais tu verras, moi mon gynéco il m'a dit d'attendre 6-8 mois pour voir comment je m'adaptais et puis comment que les douleurs passeraient peut-être et puis etc. Et en fait moi j'ai envie de dire non, en fait c'est pas une fatalité, on doit pas attendre si on a mal, c'est pas normal en fait. Et moi, par exemple, j'ai eu un stérilet pendant 5 ans. J'ai jamais eu mal lors de relations sexuelles. Jamais, en fait. Et je pense que il y a d'autres femmes pour qui c'est le cas. Et on devrait pas attendre quand on a mal. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir un médecin, d'aller voir un gynécologue, quoi. Pour cette histoire là, parce que c'est peut-être que il s'est déplacé, peut-être que il touche à un endroit, enfin ça arrive aussi ça que le stérilet se déplace en fait, par exemple. Du coup ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, mais en tout cas ça vaut le coup de savoir.
Ouais, potentiellement faire une échographie et tout. Oui. Ça. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que apparemment Roxane, tu t'es pas laissé abattre non plus tu t'es dit tiens, c'est cool, c'est une nouvelle occasion de découvrir d'autres plaisirs. Et ça aussi, c'est chouette de se dire il y a des choses des fois qui fonctionnent. Puis même si elles fonctionnent toujours, on peut aussi aller voir ailleurs. On peut se dire tiens, j'ai envie d'essayer d'autres trucs quoi.
Explorer.
Voilà.
Alors voilà, nous on va pas en faire des tartines hein, là-dessus. Si tu nous as entendu, c'est tant mieux. Puis s'il y a d'autres personnes qui sont concernées et qui nous écoutent, voilà un peu les échos que nous on avait envie d'apporter sur cette partie-là du mail. On va enchaîner avec une autre petite musique et puis si vous avez envie de nous appeler, c'est toujours le même numéro 04 76 09 09 09
et on écoute Pat Harris, Hippie Hippie Shake.
1, 2, 3, 4 Papa couldn't hit me. I've got the heavy, heavy shake.
Come on, baby, I
on a recommencé. Et là, j'ai senti non pas des chatouilles, mais beaucoup de plaisir m'envahir. Je n'étais visiblement pas loin de l'orgasme. Et puis, j'ai senti un autre désagrément en même temps que ce plaisir intense, mais cette fois c'était comme une sorte d'envie d'uriner. Je l'ai dit à mon partenaire, qui a alors pris une serviette qu'il a mis sous mes fesses. Mais bon, finalement, on a tout arrêté, car 1. Le sextoy n'avait presque plus de batterie au bout d'une heure d'utilisation. 2. J'avais trop peur d'uriner, de toute façon, et je ne pense pas que je serais arrivée à me lâcher. J'avais déjà lu des histoires d'éjaculation féminine dans une brochure et les monologues du vagin. Mais forcément, je pensais que c'était un truc qui n'arrivait qu'aux autres, et je n'y croyais pas trop. Donc je ne sais pas encore quoi penser. Faut-il réessayer et lâcher prise ? C'est pas grave si j'urine ou que j'éjacule.
Oui.
Emma mais bon, était...
mais oui, j'étais vraiment prise dans l'histoire. J'attendais la suite.
Je vous non, t'attendais l'éjaculation, ça n'est pas arrivé.
Donc en fait, voilà. Là, c'est un autre extrait du mail dont on vous a parlé déjà avant la musique. Le long mail de Roxane, voilà, qui nous partage certaines expériences. Et en l'occurrence, là, ça nous amène à parler d'éjaculation féminine, effectivement.
Et ce qui est très drôle, c'est que la même semaine où on a reçu le mail de Roxane, on a reçu le mail d'une autre auditrice qui nous raconte aussi une expérience d'éjaculation féminine.
J'étais avec mon mec, une après-midi d'été. Nous faisions l'amour depuis un moment. J'étais sur lui et son sexe frottait dans mon vagin fort du côté de mon ventre. J'étais assise sur lui. Cela me procurait du plaisir, mais j'avais aussi très envie de faire pipi. Des fois, je fais l'amour avant de faire pipi. J'aime bien. Je pense que ça doit laisser moins de place. Ça appuie sur des endroits sensibles. Bref, nous faisions l'amour. Et à un moment, alors que je prenais beaucoup de plaisir, il me demande ce qui se passe. Je mouillais beaucoup avant. Mais là, son ventre était trempé. Ça coulait sur le matelas. Je me suis retirée et on a ri. J'ai cru que j'avais fait pipi sans m'en rendre compte. Pourtant, aucune odeur. Et je suis allée faire pipi juste après. Là, ça sentait fort et j'avais beaucoup d'urine. J'ai appris après que l'on pouvait éjaculer. C'était bien comme on dit. Pas comme de la cyprine, où c'est plus épais et glissant. Pas comme du pipi, jaune et odorant. C'était comme de l'eau, en fait. Ça m'est arrivé quelques fois après. Toujours en frottant fortement et longuement cette zone. Avec un pénis ou autre. Souvent, je pense que c'est moins abondant. Donc bien plus discret. Ce n'est pas forcément associé à un orgasme, mais beaucoup, par contre, à du plaisir. Je n'ai jamais vu si c'est... Je n'ai jamais vu si, comme dans les films, ça fait de petits jets. Hein. La position n'aide pas. Mais franchement, si c'est un côté fun, je m'en fous, parce que ça change pas grand-chose au plaisir. Bien à vous. Voilà, donc ça, c'est des petites histoires d'éjaculation féminine. Du coup, nous, on avait envie d'en parler un peu de ça. Déjà en faisant un peu un point sur ce qu'on sait de l'éjaculation féminine.
Bah alors le dernier mail il raconte un petit peu certaines choses, à savoir effectivement ce n'est ni de la cyprine, donc la cyprine c'est les sécrétions lubrifiantes qu'on produit la plupart du temps pour lubrifier le vagin, et ce n'est ni de l'urine. Contrairement à ce que pas mal de gens essayent de nous faire croire, ou ce que certaines filles aussi ont peur, et le mail de Roxane le montre bien. Et c'est pas étonnant non plus, parce que apparemment au moment d'éjaculer, la sensation est assez similaire de celle d'envie de faire pipi. Du coup, effectivement, et puis il y a une autre raison pour laquelle on pourrait croire que c'est de l'urine, mais ça n'en est pas. C'est que ça sort par ce qu'on appelle le méa urinaire, enfin le bout de l'urètre, là où le trou par lequel on fait pipi, tout simplement quoi. Donc ça emprunte le même canal que l'urine, mais ça n'est pas de l'urine.
Mais comme l'éjaculat masculin.
Comme l'éjaculat masculin. Et d'ailleurs, c'est assez similaire à l'éjaculat masculin, lorsqu'il n'y a pas de sperme dedans, quoi. C'est un peu la même composition chimique. Apparemment, le plus gros composant, le composant majeur, c'est du glucose. Voilà. Alors, voilà. Bon, apparemment, l'odeur et le goût peut varier. Donc, l'auditrice, là, nous raconte que ça n'a vraiment aucune odeur, mais apparemment, selon les femmes, selon les moments du cycle, ça peut changer. Mais, effectivement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que bah, toutes les femmes n'éjaculent pas. Et c'est pas pour autant qu'elles en auraient besoin pour être épanouies sexuellement. Ça, c'est déjà une première chose qu'il faut bien dire. Y a des femmes qui éjaculent spontanément, un peu comme l'auditrice, elle le raconte un peu hop par surprise. Elle n'avait pas du tout prévu ça, quoi. Et puis il y en a d'autres qui l'apprennent aussi. Apparemment, ça, on peut essayer avec des techniques d'apprendre à éjaculer. Mais en tout cas, a priori, toutes les femmes possèdent l'anatomie qui permet d'éjaculer. Mais après, ça va être ce qui fait qu'une femme va éjaculer ou pas. Ça va être des fois effectivement, on éjacule mais on s'en rend pas compte parce que c'est une petite quantité, ou alors c'est une histoire de muscles pelviens qui seraient trop tendus ou pas assez. Enfin bref, il y a plein de facteurs. Voilà. Du coup, il y en a certaines qui éjaculent et puis d'autres pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Bah en fait, l'éjaculat, il passe donc par l'urètre, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, il viendrait de ce qu'on appelle aujourd'hui la prostate féminine, ou ce qu'on appelait à l'époque les glandes de Skene. Parce que c'est un peu des mots qu'on retrouve, quand des fois on fait un peu d'anatomie, donc c'est pour ça que je les donne. En tout cas, c'est la même chose, et en fait, des glandes, la prostate c'est pas une glande, c'est plein de petites glandes qui sont tout autour de l'urètre dont il y a des petits canaux là, et c'est pour ça qu'en fait ces glandes elles sécrètent l'éjaculat qui vont après passer par les petits canaux et rejoindre l'urètre pour éjaculer quoi.
Peut-être ce qu'on peut rappeler plus précisément, c'est que donc toutes les femmes sont capables anatomiquement d'éjaculer. Oui, bon, c'est bon, on se fout de moi la régie. Mais par contre c'est pas du tout lié à une certaine intensité de plaisir ou un but ultime à atteindre, par exemple. Enfin, mais on peut avoir cette idée-là, ouais, que éjaculer, ça apporte un plus, alors que non, en fait, c'est un phénomène physiologique et ça peut être lié à du plaisir comme ça peut ne pas, en fait.
Et on peut éjaculer sans orgasme, et on peut éjaculer avec orgasme, ça, voilà. Effectivement. Ouais.
Ce qui a l'air d'être le cas aussi pour les garçons,
oui.
Après ce que j'ai entendu. Bah voilà.
Ouais, et même je rajouterais que c'est possible aussi il est possible aussi que certaines femmes injaculent, c'est-à-dire que le même phénomène, ça, en fait, ça va repasser par l'urètre, mais en direction de la vessie cette fois. Donc voilà. Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles des fois on a l'impression qu'on n'éjacule pas, alors qu'en fait ça se trouve oui, enfin, puis peu importe, mais en tout cas il y a une grande diversité même si l'anatomie est similaire, il y a une grande diversité là-dedans, et c'est pour ça que les situations elles sont différentes, quoi.
En tout cas, c'est intéressant parce que moi je sais que j'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec des copines où on se rendait compte que souvent après avoir fait du sexe, on a cette sensation d'avoir envie de faire pipi, puis en fait tu te retrouves aux toilettes, puis non, c'est pas forcément ça. Et moi je me dis que peut-être c'est aussi lié à ça, à cette histoire que tu viens de raconter d'injaculation.
Ouais, effectivement.
Ouais.
En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus là-dessus, moi j'ai à peu près tout lu, mais pas complètement, un guide qui retrace un peu différentes méthodes d'apprentissage. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est possible un peu d'apprendre. Donc avec ou sans orgasme, avec ou sans partenaire, et en fait c'est une femme qui s'appelle Deborah Sundahl, une américaine qui a écrit ce bouquin et qui organise là-bas ou qui organisait, je sais pas, des ateliers comme on peut faire des ateliers découvre ton vagin, mais elle faisait des ateliers éjaculons quoi. Je trouve ça, enfin voilà, du coup bah,
comment il s'appelle ce petit
bouquin? Alors ce bouquin il s'appelle Tout savoir sur le point G et l'éjaculation féminine, ce qu'on le verra tout à l'heure, c'est un peu en lien. C'est aux éditions Tabou, donc c'est les guides Tabou, et ça date de 2005. Voilà.
Ok. Et du coup, ça nous amène à parler aussi du point G.
Ouais, alors, mais je crois qu'on s'est écouté une petite musique avant.
Ah oui, on fait une petite transition. Une petite pause. Mais du coup, ouais. On peut aussi peut-être redire que il y a ces textes qui sont super intéressants et émouvants, etc. Les monologues du vagin.
Exactement.
Et il y a une histoire dedans qui s'appelle l'inondation, qui est une histoire d'éjaculation féminine un petit peu triste quand même. C'est une vieille dame qui raconte comment elle a éjaculé une fois dans sa vie. Elle raconte un peu les circonstances de ça et c'est très beau. Et on voit aussi à quel point beaucoup de femmes, on est toutes plus ou moins confrontées à cet état de fait que on nous amène pas à apprendre à bien connaître notre corps et que ça peut aussi avoir des conséquences douloureuses, ça, une certaine méconnaissance des phénomènes physiologiques qui sont.
Et puis je pense que c'est pas anodin que ça soit une vieille dame, parce que autant aujourd'hui on en entend parler quand même de l'éjaculation féminine là, c'est pas une nouveauté là que nous on sort à Calibre. On parle des femmes fontaines et tout ça, puis on fout bien la pression à toutes les femmes qui éjaculent pas, bien sûr. peut-être qu'à une autre époque aussi c'était quelque chose qui était vu comme quelque chose d'anormal. C'est pas juste une méconnaissance, c'était vu comme elle est vraiment pas normal cette fille qui éjacule, alors qu'aujourd'hui ça serait le summum de l'épanouissement sexuel. Donc voilà, enfin moi j'ai un peu envie de dire c'est effectivement quelque chose qui existe et c'est chouette pour celles qui le vivent. Si elles trouvent ça chouette, elles peuvent trouver ça relou aussi, et puis pour celles qui le vivent pas, s'il y a rien de...
Mais en fait, du coup, ça me refait penser à ces histoires d'injonctions contradictoires, parce que moi, j'ai l'impression aussi que dans certains milieux où si par exemple ton ou ta partenaire a très peu d'idées là-dessus sur l'éjaculation féminine, ou n'en a jamais vu, ou que la parole est pas simple autour des pratiques sexuelles partagées, etc. Il peut y avoir des réactions de rejet ou de dégoût, parce que ça peut être assimilé à de l'urine ou à un phénomène en tout cas un peu bizarre. Ou comme tu dis, ça peut être aussi le but ultime visé, je vais te faire éjaculer, tu vas avoir du plaisir, etc. Et on en revient toujours à ces, moi ce que j'appelle des injonctions contradictoires. Soit t'es la bête de sexe, trop t'aimes le sexe, t'es chaude comme la braise et c'est génial. Mais en fait t'es quand même un peu une salope. T'es une femme très sensible, douce, et puis qui n'éjacule pas. Enfin, ça va pas avec l'image de la femme discrète qui va jouir mais délicatement, sans avoir une mare, une flotte autour d'elle comme ça. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je trouve c'est encore. Là-dedans, comment on peut trouver des voies d'épanouissement simples et un peu spontanées, c'est parfois difficile, quoi. Voilà.
Avant qu'on écoute une musique, je crois que j'ai quand même envie de revenir sur le mail de Roxane et la question qu'elle pose. Donc, est-ce que c'est grave si elle éjacule ou si elle urine? Enfin, moi, j'ai envie de lui répondre. En fait, fais bien comme tu veux, quoi.
Ouais.
Voilà. Si t'as envie de voir jusqu'où te mène cette sensation-là, vis-la. Si t'as pas envie parce que tu sais pas à quoi tu t'attends et à ce que ça va provoquer chez toi, la vis pas.
C'est... Ou vis-la d'abord peut-être toute seule, ça peut être aussi ça, parce que souvent la pression elle est liée à comment va réagir l'autre, et des fois ça peut être aussi de, si ça te fait envie de voir ce que ça fait, ça peut être aussi de, par la masturbation, essayer de voir comment ça va aboutir cette histoire de sensation. Bon alors, on s'écoute La Gale, Je vais me marier.
même marié pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je vais me marier avec un nuisible dont les gens bien tremblent. Parce que l'amour c'est bien possible, et montrer ce qui nous rassemble. Je vais me marier, j'ai pas d'autre idée, c'est la seule chose qui me reste à faire. Donner la vie en rose à un expulsé parce que là-bas il y a une guerre. Je vais me marier en robe blanche avec un arabe à moustache et je crierai vive la France et ses cagoules sans jeu cache-cache. Puisqu'à l'arquette on se met des baskets pour barrer vite. La nationalité je la raquette, moi j'ai le sens civique. Ah, je vais me marier, on fera la noce dans un carrosse en R5. On roule notre bosse, rien à notre poche et on se vole sur les contraintes. Je vais me marier pour le meilleur et pour le pire, pour emmerder de tout mon cœur la préfecture qui a la couleur te fait sortir. On a un simple trait de signature. Je vais me marier sans les vingues. On fera semblant avec deux brosses à dents. Si ça s'endurera, ça va les coups. On est noir et blanc et c'est bon. Je vais me marier, divorcer aussi. Pour me marier, me remarier encore. Si ça te dit, si tu t'appelles Abdou Mehdi, je peux peut-être te faire un sort. Parce que j'ai eu la chance à la naissance. Les bons papiers, peut-être pas la peau blanche, mais avec ça, je vous permets de te donner des baisers. Je vais me marier, c'est une caprice. Je serai l'ambassadrice de la vapeur. Et je crierai vive la Suisse. Dégueule les lois mises en place. Dégueule les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place. Au référendum, je te traverse les encas, les tiroirs caisses. Serrer un peu pour faire de la place, pour accueillir mon palmarès. Je vais me marier, même si ça doit me coûter 500 000 francs. Même si ça doit me coûter 15 000 euros. Si je dois faire 5 ans d'emprisonnement pour la liberté. Pour la liberté. J'accepte ces cadeaux et tout en haut de la pièce montée, je brûlerai ton invitation à partir. Je mettrai des drapeaux sur les dagis, des frères parents désobéir. Je dirai mon amour à qui veut l'entendre. Si ça vous arrange, je pourrais bien peindre. Parce qu'un homme faut bien le libre-échange. S'il veut vivre ici, nul ne peut le contraindre. Dans mon oeil qu'il est, sans foi ni loi. Dans ton oreille, une cymbale qui prendra là son plein emploi. En rythme d'hymne national. En rythme d'hymne national. On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les frontières. Si quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. On va se marier pour les papiers parce qu'on comprend pas les frontières. Si quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Rebonsoir, vous êtes toujours sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97 FM ou partout ailleurs sur Internet. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Et
on continue à parler.
Avant, on parlait un peu d'éjaculation féminine et du coup, ça nous amène à parler du point G.
Du fameux point G.
Mais le point G nous amène à parler du clitoris.
Oui. Alors, on s'était dit qu'on commencerait déjà par un petit état des lieux, un état des recherches en fait actuelles et de ce qu'on connaît de l'anatomie du clitoris, parce que pour parler du point G qui serait cette zone précise qui provoquerait des orgasmes très intenses, etc., il faut déjà qu'on fasse un petit peu d'anatomie. Et donc, nous, on avait envie de vous rappeler, enfin, qu'on se rappelle un peu ensemble qu'est-ce que c'est que ce clitoris et comment il est fait. C'est un exercice un peu difficile à la radio. Parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est faire un petit schéma animé. Mais on ne peut pas. Du coup, puis comme on n'a pas de webcam, et puis de toute façon, ça nous brancherait pas forcément de faire ça devant la webcam, on va quand même essayer de le faire à l'oral, comme ça, et d'être un peu clair.
Puis on vous donnera des références où vous pourrez trouver des images.
Oui, voilà.
Mais même aujourd'hui, sur Wikipédia, on trouve une image du clitoris.
Oui, qui est assez correcte.
Qui est assez correcte, oui. Du coup, mais je trouve qu'on peut quand même avoir ce défi, relever ce défi de faire ça à l'antenne.
Alors avant le direct là avec Mélanie, on essayait de faire on essayait comme ça de se dire mais alors à quoi ça ressemble. Alors on a trouvé des petites images comme ça, mais bon, on s'est dit le clitoris ça ressemble
un oiseau
sans corps
dont les ailes seraient gonflées
mais pas complètement déployées. Alors ça fronce les sourcils à la régie, vous comprenez rien à ce qu'on raconte, vraiment. Non mais si, avec la petite tête relevée comme ça, là, et puis les ailes comme ça, sans le corps. En tout cas, ça fait le gland comme ça qui ressemble à une petite tête d'oiseau relevée, et les deux arches qui partent que...
à la perpendiculaire du gland du clitoris, qui voilà. est la partie externe.
La partie visible de l'iceberg.
Et du coup, à la perpendiculaire, il y a cette double arche, donc il y a deux espèces de
bourses comme ça, mais allongées,
qui sont les ce qu'on appelle les bulbes spongieux. Mmh. Et il y a deux le long de ces bulbes spongieux, il y a aussi un autre truc qui s'appelle de chaque côté, une dans l'autre arche, qui s'appelle les corps caverneux.
Voilà.
Voilà. Et du coup, ce truc-là, cet oiseau sans corps, cette menthe religieuse, moi je trouve que ça ressemble un peu à un os de vœu aussi, mais voilà, il serait à la, comment dire, un petit, à peu près à la perpendiculaire du vagin.
Mais on va dire, ouais, pas tout à fait 90 degrés, 70 degrés. Quoi.
Allez, 70 degrés. Mmh. Donc, vers l'avant, donc on a le gland du clitoris qui sort, et les deux arches qui seraient, quand on est debout et qu'on est une femme, qui seraient le long des lèvres, des grandes lèvres. Mmh. Il y aurait cette double arche qui serait horizontale, en fait, à peu près. Peut-être un peu... à peu près horizontale, on va dire.
Et donc, le clitoris, ces deux arches, en fait, sont à cheval sur le vagin.
Voilà.
Un peu comme ça, c'est une image comme ça, mais... Comme si le gland... Il était, voilà, en haut, avec les deux pattes qui enserrent le vagin.
Comme si le clitoris était à cheval sur le vagin en direction du sol.
Voilà. On fait comme
on peut. Voilà. Bon, bref. Et du coup, bon alors on peut dire quand même d'où nous
oui.
qui a rappelé un petit peu qui nous a amené cette nouvelle anatomie, enfin c'est pas nouvelle, mais en tout cas qui a découvert cette l'anatomie du clitoris, c'est Hélène O'Connell, une Australienne avec toute son équipe, j'imagine.
Une chercheuse,
qui, à la fin des années 90. On peut retrouver pas mal de résultats de sa recherche dans un film dont on a déjà parlé à Calib, qui s'appelle
Le
cher inconnu.
Et il y a une brochure aussi qui a été éditée du coup suite à qui reprend un peu des extraits du film et puis qui montre des images aussi.
Et qu'en trouvez-vous?
Peut-être sur infocasse.net, je sais pas, ou à la bibliothèque féministe. Bon, en tout cas, les schémas qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui sont déjà bien parlants.
Voilà.
Donc voilà. Après,
donc ça nous amène à parler du point G, parce que du coup, une autre chercheuse, mais cette fois française, une gynéco-échographe. A fait des recherches ces dernières années pour et aurait découvert qu'en fait le point G serait la zone, non pas un organe en soi, mais une zone de contact entre le clitoris et le vagin. Alors je vais expliquer un peu plus que ça. Ça serait dans un cadre de pénétration et avec la contraction du périnée, vous voyez là ce qu'on disait, que le clitoris était à cheval. En fait, au repos, on va dire, il est à cheval, mais plutôt sur les étriers, quoi. Il n'est pas collé au vagin, mais dans les cadres de pénétration, le clitoris vient cette partie du clitoris vient se coller sur le bas du vagin. Mmh. Voilà. Et ce serait cette zone de contact lorsque le clitoris est gorgé de sang, qu'il est tout excité, quoi, qui serait une zone de plaisir que certains appellent le point G.
Voilà.
Voilà.
Mais tout ça pour dire aussi que finalement, c'est toujours pareil, ces histoires. C'est que c'est pas non plus... c'est chouette d'avoir toutes ces informations pour peut-être mieux visualiser ce qui se passe en soi ou dans le corps de l'autre lors d'un rapport de pénétration, mais on n'est pas... Nous, ce qu'on voulait dire aussi, c'est pas, encore une fois, le but ultime à atteindre. Ah, je vais trouver ma zone et ça va être le panard total. C'est pas une obligation non plus. Et puis, on n'est pas toutes faites pareilles. Et puis, en fait, c'est encore hypothétique, cette histoire de point G. En fait, il y a beaucoup de controverses là-dessus.
Bah, moi, je crois que j'ai envie de dire que c'est hypothétique. Je crois pas. Je pense que réellement, chez beaucoup de femmes, ça peut être une zone de plaisir. Et à partir du moment où des femmes le disent, je crois que j'ai pas trop envie qu'on dise que ça n'existe pas. Après, par exemple, la version, ce que je disais qui était le point G pour Odile Buisson, pour Déborah Sundahl, là, dont je parlais tout à l'heure à propos de l'éjaculation féminine, dit autre chose. Pour elle, le point G, c'est la zone de contact entre le clitoris, la prostate, donc qui produit l'éjaculat, et le vagin. Voilà, moi j'ai plutôt envie de dire, il y a plein de versions, et il y a peu de versions fiables vraiment actuellement à ce sujet-là. Et moi je trouve que c'est dommage, parce que même si je suis d'accord avec toi Emma que c'est pas une zone absolument qu'il faut trouver en soi et tout ça, mais bien connaître l'anatomie, c'est quand même une des pistes pour pouvoir trouver des solutions quand il y a des problèmes physiques dans la sexualité, parce que la sexualité chez les femmes, c'est aussi physique, c'est pas que psychologique, et du coup je trouve que il y a des choses à savoir, quoi, et c'est pas puis même connaître son corps, je trouve que ça permet aussi de mieux savoir où est-ce que ça nous fait du plaisir, où est-ce que ça nous en fait pas. Et même si, il s'agit pas de dire là c'est ici qu'on a du plaisir et c'est pas ailleurs ou j'en sais rien quoi, mais je trouve que savoir réellement comment on est construite et tout ça, ça donne plus de prise pour faire ses choix et mieux découvrir son corps, quoi.
Oui, j'entendais par hypothétique justement moi j'avais envie de rappeler que c'est intéressant tout ce que tu viens de rappeler, tout ce que tu viens de dire autour de quand on a des informations, là on peut faire des choix, on peut explorer, on peut mieux se réapproprier son corps, etc., etc. Mais c'est pas le bon mot. C'est-à-dire que moi j'ai quand même aussi envie qu'on se rappelle toujours que chaque corps est différent et que peut-être qu'il y a autant de points G qu'il y a de femmes. Moi c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que des fois je me suis retrouvée dans des discussions où on venait d'avoir ces infos là sur cette fameuse zone et puis qui est assez localisée pour certaines qui font ces hypothèses là ou à partir des témoignages que des femmes leur ont donné tout d'un coup tu te dis dans ta tête moi c'est pas du tout là en fait que ça me faisait ces sensations là, mais c'est bizarre, est-ce que moi du coup j'ai un vagin qui est inversé. Et en fait, on peut aussi partir dans ces trucs-là et moi j'ai envie de dire peut-être qu'il faut qu'on explore chacune où est notre point G et que ça va pas forcément être la zone qui sera décrite par telle ou telle personne, mais que finalement des zones, il peut peut-être y en avoir plusieurs, et puis peut-être que plein de femmes vont avoir en commun une zone et puis peut-être d'autres pas, enfin voilà.
Et puis certaines en auront plusieurs sur le même corps. Effectivement, oui, c'est clair.
Et voilà. Et du coup, peut-être ça peut nous amener aussi à rappeler une deuxième chose qui nous semblait importante là, c'est le rapport à la performance. C'est-à-dire que ces histoires de point G, c'est d'un côté intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le plaisir, mettre l'accent sur l'information, la connaissance, pour pouvoir mieux jouir ou je sais pas quoi. Mais toujours pareil, c'est pas non plus une course ou une compétition en fait. C'est pas à celle qui jouira le mieux ou le plus vite ou le plus intensément. C'est toujours pareil quoi. Et Et moi, faudrait pas que ça devienne ça non plus, cette histoire de plongée.
Moi, j'ai peur que, à certains égards, ça le soit déjà, parce que quand on apprend que il y a des gynécos qui font des amplifications du point G,
ouais.
Et donc
une opération,
ils injectent dans cette zone supposée. Enfin, c'est pas qu'elle, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas qu'elle est supposée, c'est qu'en fait, on décrète qu'elle est à 3,7 cm à l'intérieur du vagin, et là, on injecte de ce qui s'appelle de l'acide hyaluronique. Bon, alors je sais pas trop ce que c'est, mais bon, en même temps, injecter quelque chose dans le corps, c'est pas non plus forcément anodin, quoi. Et tout ça pour durcir ce point G pour qu'il soit potentiellement plus sensible et tout ça. Et du coup, ça, c'est des opérations qui sont assez chères et où il y a des risques de perforation de l'urètre, parce que l'urètre est tout à côté de l'urètre, en fait, donc ce canal qui va de la vessie qui permet de faire pipi, en fait, il est entre le l'arche du clitoris et le vagin, quoi. Donc c'est vraiment le même coin, quoi. Et du coup, bah ça, perforer son urètre, c'est quand même bien grave, quoi. Et ça, c'est bien, ça répond bien à ce truc de performance. Enfin, je veux dire que des femmes, elles se disent, bon, bah là, je sens rien, j'aurais qu'à, enfin, et que des médecins, ils soient prêts à faire ce genre de choses, alors que finalement, on en sait encore assez trop rien sur l'anatomie féminine, comme on vient de le dire. C'est, moi, je trouve ça vraiment grave, quoi.
Ouais. Donc, ce qui permet de pouvoir faire des revendications aussi, non, tout ça. Enfin, moi, j'aurais envie de, encore revendiquer qu'il y ait plus de recherches et que aujourd'hui l'état des recherches sur l'anatomie et en particulier sur le plaisir féminin, l'état des recherches il est faible, quoi. Et il y a des manques et il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui se penchent là-dessus. Et comme le dit très bien Odile Buisson, il n'y a pas d'intérêt pour ces recherches-là, ou très peu de financement, etc., etc., et que...
Et c'est même pas juste de l'absence d'intérêt, c'est, je veux dire, c'est, Odile Buisson, elle a sorti un bouquin récemment qui s'appelle « Qui a peur du point G ? Le plaisir féminin, une angoisse masculine ?» qui, en fait, c'est un peu son cheval de bataille, d'ailleurs. En fait, elle montre comment l'université, enfin, la médecine, la médecine en tant que recherche, quoi. Elle est androcentrée. Enfin, déjà, en fait, elle est faite pratiquement que par des hommes, ou en tout cas les postes de direction,
les postes importants
de décision, tout ça sont tenus par des hommes, donc forcément c'est eux qui dirigent un peu l'orientation des recherches. Et puis les recherches aujourd'hui en matière de sexualité, elles sont faites beaucoup autour donc des hommes, et quand il s'agit des femmes, de la procréation et jamais du plaisir féminin, quoi. Ce qui fait que pour montrer à quel, enfin, le déséquilibre, enfin, c'est pas juste des paroles en l'air, quoi. Quand on disait tout à l'heure qu'on a découvert l'anatomie du clitoris à la fin des années 90, donc en 98, avant c'était un petit truc de 3 cm, voilà. À la même époque, on inventait le Viagra chez les hommes, quoi. Enfin, je trouve que qui était déjà une réponse chimique à un dysfonctionnement mécanique des organes sexuels masculins. Donc, enfin, c'est vraiment dommage, quoi.
Oui, et ce qui permet de pouvoir aussi rappeler que la frigidité est un mythe et que c'est encore aussi beaucoup véhiculé, y compris par des gynécologues, des soi-disant sexologues, etc. Et ce mépris, en fait, aussi, parce que moi, je trouve que c'est de l'ordre du mépris aussi dans ces cas-là, de toute une partie de ces soi-disant scientifiques, hommes, qui sont dans des visions très genrées, en fait, de la sexualité, etc. Ben tout ça, ça vient aussi, moi je trouve, mettre des barrières en fait à ce qu'on pourrait découvrir et continuer à creuser sur la connaissance du corps des femmes et qu'est-ce qu'on a à en dire et comment les sexualités des femmes, elles peuvent être très multiples, variées Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que psychologique. Et que c'est aussi ça, la vision très genrée de la sexualité féminine. C'est que nous, on aurait besoin que d'une petite musique douce et des pétales de rose étalés sur un lit pour jouir. Alors que non, en fait, il y a aussi des mécanismes physiques dans la sexualité féminine. Et c'est, et notamment voilà, quand je parle du mythe de la frigidité, toutes ces recherches qui vont dans le sens de mieux connaître le clitoris, etc., moi je trouve que c'est des vrais outils pour combattre ce mythe là qui est propagé en fait encore hyper largement par l'intermédiaire des gynécos ou des sexologues ou des psychobidules qui nous racontent que y a des femmes qui ne savent pas éprouver de plaisir ou qui ne savent pas jouir intrinsèquement et, ou naturellement ou je sais pas quoi, alors que non, la frigidité ça n'existe pas, il n'existe que des femmes qu'on ne satisfait pas ou qui n'arrivent pas à se satisfaire elles-mêmes en fait, enfin voilà.
Et qu'il peut y avoir des dysfonctionnements de la même manière,
voilà,
des
mécanique.
Dysfonctionnements chez les hommes. Mais
ouais.
Du coup, peut-être avant de s'écouter une petite musique, je ne sais pas si on aura le temps, on va peut-être juste
on va enchaîner sur l'agenda.
On donne on redonne deux références. Oui. Si vous avez envie d'aller voir un peu une échographie du clitoris pendant un coït, vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Bonjour Docteur, bonjour-docteur.com, et le titre de la vidéo s'appelle Échographie du point G. Donc on voit Odile Buisson qui raconte un peu ses recherches. Bon, alors ce site, c'est pas non plus
la panacée.
Cette vidéo est pas mal, les autres sont bien pourris en fait, j'ai envie de dire, pour le dire rapidement, quoi.
Oui. Bon, mais et voilà, cette vidéo elle est intéressante parce que en gros, c'était effectivement une vraie échographie qui a été réalisée lors d'un coït pratiqué par deux personnes consentantes et qui savaient qu'elles étaient échographiées à ce moment-là. Je crois que c'est des collègues qui ont accepté d'être filmés, échographiés.
Parce que c'était hyper galère pour Odile Buisson d'avoir les autorisations pour c'était, il y avait des assurances hyper chères à payer ou je sais pas quoi. Du coup, en fait, elle a demandé à des collègues comme ça de faire.
Voilà. Allez, s'il vous plaît. Et donc, on voit très très bien le phénomène physique qui se passe pour le clitoris au moment de la pénétration vaginale, en fait. Et c'est assez intéressant pour ça. La deuxième partie de la vidéo est moins, bon, c'est des rates, c'est moins, voilà.
Et la deuxième référence que je voulais donner, c'était un article de Zone Zérogène, donc un site dont on parle régulièrement à Calibre, et c'est un article qui s'appelle « Pourquoi je n'écrirai pas d'article sur le point G ?» et qui reprend un peu pas mal d'idées assez importantes sur la performance, sur l'idée que, enfin, comment on pourrait dire ça autrement, plus simplement, en gros, qui critique l'injonction à jouir des femmes à travers cette idée du point G, quoi, qui dit c'est bon, quoi, il y a d'autres choses aussi à vivre, enfin en tout cas moi je trouve que c'est un article assez chouette.
Bah notamment elle replace un peu je trouve une certaine justesse dans ces discussions là, c'est-à-dire que elle dit ben si ce point G là, il est ressenti par certaines femmes et que elles ont trouvé leur point G, etc. Bah c'est super qu'elles jouissent de la manière qu'elles veulent et qu'elles en profitent. Mais il faudrait pas non plus que ça devienne, comme on disait, une injonction, une obligation à jouir d'une certaine manière et l'obligation de s'inquiéter si ça nous arrive pas de cette manière là, quoi. Voilà. Ou si on trouve pas son fameux point G. Voilà.
La réponse au quiz, le Viagra capote. Non, la capote Viagra.
La Viagra capote.
Bon, en fait, non. C'est un peu la même chose. Hein. Et puis, ça reste un peu dans la même idée. En fait, c'est des boîtes pharmaceutiques qui ont encore inventé ça. C'est super. Ou des labos, non, des boîtes, bref.
Des boîtes afriques.
Des boîtes afriques, voilà, qui ont inventé un nouveau concept. C'est une capote dans laquelle il y aurait un gel vasodilatateur, donc qui dilate les vaisseaux et qui permettrait d'avoir des érections plus longues et plus fortes. Donc vas-y, mon gars, tu bandes jamais assez, jamais assez longtemps, jamais assez dur, voilà. Mmh. Et apparemment, les autorités européennes seraient prêtes à accepter ce truc-là. Parce que pensent-elles les autorités, ça ferait que pas mal de gars qui mettent pas de capote par peur de débander le mettraient quoi. Mmh. Mais du coup, enfin voilà, enfin je sais pas ce que t'en penses toi, Adeline, de ce truc-là.
Bah c'est toujours pareil en fait, on a parlé du rapport à la performance et c'est toujours les mêmes histoires. C'est que cette capote qui est censée faire bander pendant des heures, très dur, et ça renvoie encore à cette image de la compétition, de la performance et de, il y aurait d'un côté les mecs cassures avec leur bite non défaillante et toujours au garde à vue et puis bah les autres quoi qui débandent et qui ont peur, qui sont un peu des mauviettes. Et nous en fait c'est, on a envie de défendre un peu autre chose en termes de pratiques sexuelles, c'est-à-dire que pourquoi pas une capote Viagra, enfin moi j'en sais rien en fait, enfin je suis pas fan de tous ces petits trucs, mais par contre c'est pour nous rappeler encore que une sexualité épanouissante et satisfaisante, c'est de la pénétration ou du coït qui dure longtemps. Bon, moi ça m'intéresse peu en fait, parce que ça met de côté toutes les autres pratiques sexuelles qui peuvent être vraiment très chouettes et très source de plaisir intense. Et voilà, et on met l'accent sur finalement ce qui pourrait être un détail pour pas mal de personnes en termes de pratiques sexuelles. Voilà. Il est 21h01, on va rendre l'antenne.
On va rendre l'antenne. Juste deux dates, très rapidement. Une émission dégenrée dont on parle assez régulièrement. Il y a la rediffusion lundi prochain à 19h sur Kaleidoscope 97FM, la même radio que vous êtes en train d'écouter. C'est sur la pornographie et le féminisme. Voilà, et c'est une chouette émission avec plein de témoignages, plein de ressources et tout ça, très très chouette. Et jeudi 5 mai, donc la semaine prochaine aussi, le matin de 9h à midi sur le campus, je pense que on mettra plus d'infos sur notre site. Ça va être une matinée sur les violences conjugales dans le milieu mi-étudiant. Et voilà, et du coup on va peut-être rappeler notre site, c'est http://calibre-libre.org. Mm. Et vous pouvez nous écrire aussi comme Roxane l'avait fait
à calibre-libre@poivron.org.
At arrobase, les deux.
Ouais, at. Arrobase, quoi.
Voilà, bon, en tout cas, vous trouvez ça sur notre site. C'était Laura, Émilie, Emma et Mélanie. On était le 28 avril et rendez-vous
à la semaine prochaine
à 20h.
Ciao, ciao. Salut. Corps,
amour,
sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.